Attention, qui que vous soyez, attention. Cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences.
Pour l'amour du ciel, faites ce qu'il vous dit.
You talking to me? You talking to me?
Ça, c'est l'amour. Ça, c'est la haine. Tout ce qu'il voulait, c'était les réponses que nous cherchons tous.
On sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher.
Salut les copains, merci d'être là. Focus Store saison 2 épisode 15 avec au menu cette semaine de la culture et de la confiture en compagnie de Guy Verstraeten, journaliste télé et meilleur parti bruxellois. Bonjour Guy.
Bonjour Myriam.
Avec Nicolas Clément, journaliste ciné et BD et sosie officielle de feu Paul Walker. T'avais déjà remarqué Nico ?
Paul Walker ?
Ouais.
Avant ou après l'accident ?
Bah avant quand même.
Merde, je vais aller voir des photos, j'ai pas de commentaires là.
Et avec Isaline Parisis, journaliste livre, mais aussi femme parmi les plus influentes de Belgique, d'après un sondage du journal Le Soir datant de 2011.
Sosie officielle de la reine Mathilde aujourd'hui.
C'est pas faux, avec une coiffure particulièrement ouvragée et très impressionnante.
C'est très important d'être bien coiffé pour le Focus.
C'est vrai. Bref, la crème de la rédaction du magazine Focus Vif, hein, on profite de l'absence des autres pour le dire. Cette semaine, nous avons décortiqué pour vous les objets culturels dont tout le monde parle, à savoir le film des frères Dardenne, Deux jours, une nuit, le roman de Colomb Schneck, mai 67, la mini-série Black Mirror et le dernier album de The Roots. C'est parti.
T'as dit à certains que c'était mieux que je sois licenciée parce que sinon ce serait eux.
J'ai jamais dit ça.
Tu n'as pas de cœur.
Pourquoi tu veux pas essayer? Tu dois pas te laisser faire. Faut y aller. Avant de choisir leur prime, ils ont hésité, ils ont pensé à toi. C'est pour ça qu'il faut aller les voir un par un ce week-end.
Excusez-moi de vous demander ça, mais pour moi c'est important de le voir parce qu'il peut m'aider à pas perdre mon travail, à pas aller au chômage.
La prime, nous, c'est parce qu'on a bossé qu'on l'a.
Mais je sais.
T'as pas honte, franchement, de venir nous piquer notre fric.
Non, je la ferme pas, t'es dégage.
Il y en a déjà combien qui acceptent de perdre la prime?
4 avec toi. J'en ai encore 9 à voir.
Tu vas y arriver, j'en suis sûr.
De tout ce temps gâché et de tout ce temps perdu, dire qu'il y a tant d'êtres sur la terre.
Un thriller social, le 9e long métrage des frères Dardenne revenu bredouille de Cannes, alors que certains lui prédisaient la Palme d'Or ou au moins le prix d'interprétation pour Marion Cotillard. Marion qui joue Sandra, ouvrière sortant de dépression, qui apprend en voulant reprendre le boulot que son poste a été mis en balance avec la prime des ouvriers. En gros, soit ils touchent leur bonus, soit ils la réintègrent. Ils ont déjà voté pour l'argent, mais Sandra obtient l'organisation d'un nouveau scrutin. On est vendredi, on revote lundi, elle a donc le week-end pour convaincre ses collègues. Et durant 95 minutes, elle va faire du porte-à-porte, littéralement. Elle n'est pas toute seule, elle est mariée, elle a 2 enfants, mais elle n'a pas forcément les épaules en ce moment pour ce genre de combat. Sandra parviendra-t-elle à retrouver son job? Vous le saurez en regardant Deux jours, une nuit, un suspense social assez haletant, mais pas inoubliable pour autant. Moi, j'ai jamais réussi à oublier que Marion Cotillard était Marion Cotillard. Elle a pourtant été unanimement censée par la critique, donc c'est sûrement moi qui ai tort. Hein. Mais j'ai vu à chaque plan l'égérie Dior jouant à la pauvresse, ce qui m'a quand même mis très mal à l'aise. J'ai vu une démarche presque cynique dans ce déguisement et cette manière de travailler son langage façon Cosette du bassin liégeois. Je trouve que c'est un des films les moins intéressants des Dardenne, avec notamment une énormité scénaristique en plein milieu du film, le suicide de son héroïne, sauvée de justesse par une collègue passant par là. Bref, alors que je n'ai jamais été de ceux qui taxaient les frères Dardenne de pornographes misérabilistes, pour le coup, je serais tentée de leur donner raison. Alors toi, Nicolas, toi qui es issu un peu de ce milieu que dépeignent les frères que peut-être une autre.
Toi qui es né dans un four à chaud, à Coquerille-sans.
Dans un bassin de houille. Qu'est-ce que tu peux nous en dire?
De Paul Walker à Coquerille-sans, c'est un peu un grand écart. C'est tout moi. Voilà. Non, mais le film... ouais, c'est clairement pas leur meilleur film. Enfin, je trouve qu'il est assez critiquable et imparfait à pas mal d'égards, notamment au niveau de l'interprétation, c'est vrai. Mais alors, oui. Moi, j'aurais pas pointé Marion Cotillard, j'aurais plutôt pointé
Fabrizio.
Mais les autres acteurs, puisqu'en fait, comme elle fait du porte-à-porte, comme tu disais, et qu'elle rencontre toute une série de personnages, en fait, tous ses collègues, un à un, on a droit à une série de face-à-face comme ça où les personnages sont mal à l'aise.
Ouais.
Et je trouve qu'ils ne jouent pas tous bien le malaise, et le malaise devient un peu celui du spectateur par moment. On n'y croit pas
toujours.
Tu penses
à qui? Tu penses à quel personnage?
Ouais, je pense à la scène entre le père et le fils qui finit en bagarre. je pense, la scène avec le type qui est sur un terrain de football et qui arrive avec sa tête dans ses chaussures avant même d'avoir ouvert la bouche. Et en soi, c'est pas très grave, mais c'est vrai que par moments, je trouve qu'on a un peu du mal à y croire, en fait. Le film est très répétitif, c'est le principe, et il y a des scènes qui fonctionnent mieux que d'autres. Mm-hmm. Après, je trouve que c'est pas tellement grave dans la mesure où ça ne dessert pas tout à fait le propos non plus, c'est-à-dire que le propos reste fort, hein. Il y a mm-hmm. toute une série de questionnements moraux à l'œuvre dans le film qui reste, qui garde vraiment leur pouvoir percussif comme ça, enfin c'est quelque chose d'assez fort. On se pose pas mal de questions sur qu'est-ce que c'est finalement que c'est ce système qui conduit à ce genre d'humiliation, hein, puisque c'est mm-hmm. vraiment, on a l'impression qu'il y a quelque chose de quasi christique, enfin c'est un chemin de croix, hein. Elle va sonner de porte à porte comme ça pour mendier son boulot quasi. Enfin, c'est au niveau de la dignité humaine. Enfin, c'est quand même, enfin, je veux dire, elle doit s'abaisser quand même assez bas. Mm-hmm. D'ailleurs, elle a du mal à le faire. À chaque fois, elle dit, je vais arrêter. Enfin, et ça pose vraiment la question, enfin, une question morale, où placer finalement le curseur entre ce qui est juste et ce qui n'est pas juste, entre ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Ça, je trouve ça vraiment super intéressant. Et au final, le film, en fait, est peut-être plus intéressant dans une dimension quasi symbolique. Enfin, on pourrait presque voir le film comme une sorte de fable, c'est-à-dire que voir comme. Enfin, je trouve que le film a quasi une dimension un peu mythologique. C'est un peu le mythe de Sisyphe. Enfin, moi, je reviens souvent avec le mythe de Sisyphe. Mais c'est vrai, Sisyphe, qui donc ce héros de la mythologie grecque, qui pousse sa pierre en haut d'un rocher, et puis le rocher retombe toujours en bas, et puis il doit le repousser en haut. Et donc, c'est complètement absurde. Ça te fait rire, Guy. Et il y avait la vision d'Albert Camus du mythe de Sisyphe, c'était de dire qu'en fait, Sisyphe donc avait une existence complètement absurde, c'est-à-dire qu'il repoussait toujours son rocher sur le haut de la montagne, et il disait, mais en fait, il faut imaginer Sisyphe heureux. Et alors, ici, c'est ça, en fait, le message du film, c'est de dire que finalement, c'est en... parce qu'elle répète toujours les mêmes gestes, les mêmes démarches, elle dit la même chose du début à la fin du film, on lui répond plus ou moins la même chose aussi, hein, même s'il y a des variantes. Et finalement, c'est de dire que l'important, c'est de se battre, et que le bonheur, entre guillemets, il est dans la lutte, quoi. C'est ça le message du film, et donc, je trouve ça assez intéressant. Sinon, c'est vrai que le film, il y a quelque chose un peu d'Asghar Farhadi, c'est-à-dire que ça peut être vu comme un thriller ou une sorte de survival comme ça, social. Ici, c'est beaucoup moins fort quand même que chez un Farhadi, donc je pense à un film comme Une séparation ou Le passé, dans la mesure où on a l'impression qu'il privilégie plus le côté moral que le côté viscéral de leur cinéma. C'est-à-dire qu'on n'est pas non plus à fond dedans, ça reste quelque chose d'assez froid, en fait, je trouve, un film des frères Dardenne. Ce qui est pas plus mal, peut-être.
Et l'interprétation de Marion Cotillard, à qui on promettait le prix d'interprétation, Guy, par exemple, qu'est-ce que tu peux
dire? Moi, j'aime pas trop Marion Cotillard en général. Je veux dire, sincèrement, elle m'a jamais convaincu dans quoi que ce soit.
Même dans De Rouille et d'Os de Jacques Audiard?
J'ai pas tout vu, en fait, de Rouille et d'Os. Donc, j'admets que hier, par exemple, après avoir vu le film des frères Dardenne, il s'avère que j'ai regardé Batman pour la
mort
104e fois. Et j'ai revu Marion Cotillard mourir dans Batman, et ça reste quand même un grand moment de comique. Ça reste un grand moment de comique involontaire. Il n'est pas impossible. Moi, j'ai pas du tout d'expérience de comédien, mais je pense que si je meurs devant une caméra, je devrais être plus crédible que ça. Mais bref, moi, je suis assez d'accord avec ce que vous avez dit tous les deux, en réalité, par rapport au film, notamment avec ce que toi t'as dit. Moi, j'y ai pas cru des masses, vraiment.
Pour moi, Marion Cotillard joue la pauvresse. Elle est déguisée.
Elle est espèce de neurasthénique. Elle est un peu neurasthénique comme ça. Elle joue sur son langage. Moi, j'ai pas cru une seule seconde. Peut-être un peu plus sur la deuxième partie du film.
Son langage un peu petit nègre, en mettant des ils. Enfin, c'est jamais sujet verbe complément.
Moi, j'y crois. J'y ai pas cru une seule seconde, sauf à partir du moment peut-être où elle reprend un peu de poil de la bête, où elle redevient un peu plus volontaire, où là il y a plus de souffle, je trouve, dans ce qu'elle fait, et c'est moins artificiel. Mais curieusement, le film en lui-même, je le trouve un peu artificiel, quoi, un peu théorique aussi, comme ça. T'as l'impression d'avoir une espèce de démonstration de force des Dardenne, pour tu ne sens que le message, finalement. Et je trouve qu'il y a assez peu d'empathie avec le personnage, parce que tu te dis, ok, c'est pas cool de perdre son boulot, c'est pas chouette, mais à la limite, puisque c'est posé de cette manière-là, c'est-à-dire qu'on rentre directement quasi dans les différents conflits, tu te demandes à quel point c'est tellement important pour elle de garder son boulot, si tu veux.
Qui n'a pas l'air jojo, hein.
ça a pas l'air super son boulot, mais tu vois qu'elle vit dans, tu vois, son mari est au
Lounge Garden.
Au Lounge Garden, ils ont une petite maison. Bon, ça va pas être chouette de perdre son travail, mais t'as pas l'impression non plus que c'est tu
ils
vois
sont
pas
à la rue, quoi.
Voilà, ouais. tu te dis pas que c'est la catastrophe la plus affreuse de l'histoire de la catastrophe, si tu veux, quelque part. Je dis pas qu'ils auraient dû le faire, mais ce que je veux dire, c'est que on manque avec elle de il y a pas un background qui fait que t'as envie d'être avec elle dès le départ, je trouve. Tu te dis, ok, c'est bien, t'as envie qu'elle gagne son boulot, mais voilà. Et puis, il y a le procédé qui est très, très répétitif et qui fait qu'à chaque fois, tu te retrouves face à une... Il y a des petites subtilités, c'est intéressant.
Moi, je trouve ça intéressant parce
c'est
que
intéressant.
C'est le portrait très rapide de l'histoire à chaque fois d'une famille, d'un clan. De
tout à fait. C'est intéressant, mais ça a le défaut de ses qualités. C'est-à-dire que forcément, tu restes à chaque fois 1 minute 30, 2 minutes, 3 minutes à tout casser avec quelqu'un et t'as jamais le... Oui, ok, les gens ont besoin de leur prime, ou un peu plus, un peu moins, en fonction, il y en a qui sont plus égoïstes que d'autres, il y en a qui pensent, voilà, il y en a qui en ont vraiment besoin, mais finalement, je trouve que tu ne restes pas vraiment avec les gens et t'as rarement l'occasion de développer complètement l'histoire de ces gens-là, quoi. Je trouve que ça aurait peut-être été, moi j'aurais préféré voir, je pense, un film.
Sur ses collègues.
Pas forcément, mais une pièce avec une réunion, si tu veux. Limite, la réunion aurait duré 1h30, où chacun développe ses arguments. Et est influencé par les autres.
C'est un peu 12 hommes en colère.
Quelque part. Moi, c'est un film qui m'aurait plus plu. Ici, vraiment, je trouvais le procédé répétitif. Et puis voilà. Et puis Fabrizio Ronzione, j'y crois. Franchement, j'y crois pas non plus.
Oh, moi, je l'aime beaucoup.
Moi, j'y crois pas. J'y crois jamais, en fait. Et vraiment, j'y crois jamais. Et
pourquoi?
Marion,
parce
j'y crois jamais. Non, mais
je crois jamais.
Phrasé, oui, je trouve que c'est pas naturel. Ces gens sont pas naturels. Et il y a quelques acteurs, effectivement, Nicolas l'a dit, c'est très inégal dans les confrontations. Et puis moi, c'est aussi, et je terminerai là-dessus, moi, c'est un bon film globalement. Restons oui. de bon compte. Mais moi, c'est un procédé qui me met mal à l'aise. C'est-à-dire que tu sais qu'il y a à chaque fois une confrontation, et c'est quelque chose qui me met mal à l'aise dans le cinéma quand il y a uniquement des confrontations comme ça. Tu sais que tu vas être mal à l'aise, et quelque part, moi, ça m'a mis mal à l'aise. J'ai pas passé un bon moment, quoi. J'avais envie de me cacher les yeux à chaque fois. J'étais gêné pour elle, ce qui est peut-être l'objectif.
Donc finalement,
aussi.
Oui, ça.
L'objectif est là, mais en même temps. Enfin, je sais pas. Voilà. Puis, dernière petite chose, il y a des trucs un peu artificiels. Par exemple, la scène où ils chantent dans la voiture.
Où ils écoutent du rock.
Ouais, tu sens que c'est la petite respiration comme ça. Voilà, moi, je trouve ça un peu plus faible.
Ceci dit, le film a réhabilité La nuit n'en finit pas de Petula Clark, qui est quand même une immense chanson malheureusement oubliée. Donc,
tout à fait.
Que j'écoute en boucle depuis. Enfin, bref, voilà. Isaline, je n'ai pas réussi à percer dans ton regard ce que tu pensais de ce que nous avons dit jusqu'ici.
Bah, moi, j'ai envie d'un peu, entre guillemets, sauver le film, même si vous ne l'avez pas complètement descendu. Mais voilà, moi, j'ai été assez impressionnée par le film. Je trouve que le scénario, déjà, est assez implacable, assez impeccable dans cette sorte d'équation à une inconnue. Quoi, voilà, soit elle recueille les voix, soit elle perd son boulot. Il n'y a pas beaucoup d'alternatives. Et du coup, sur le plan de la dramaturgie, j'ai trouvé ça assez fort parce qu'ils parviennent vraiment à greffer là-dessus un film d'émotion. Enfin, sur ce principe, voilà, du film un peu répétitif, effectivement, film à sketch où elle est chaque fois devant une porte et une sonnette. Et on ne sait pas ce qu'on va trouver derrière. Voilà, et chaque fois, c'est un regard, un visage, une méfiance, une position. Et ça ouvre comme ça à chaque fois sur des mini-fenêtres, sur d'autres vies que la sienne finalement, et chaque fois sur un autre film potentiel, et je trouvais ça assez intéressant. Après, le parti pris, effectivement, c'est de suivre cette femme, Sandra. Voilà, on a un peu chevillé à elle, on n'a pas le choix. Et je trouve que finalement, ça reste un petit peu... je trouve qu'il y a quelque chose de juste dans la répétition qui se fait aussi. Par exemple, on le disait, mais les réactions des gens sont assez semblables. Par exemple, il y a une question qui pose quasi tous, je crois. Tiens, mais les autres, ils ont dit quoi? Voilà,
ou qu'est-ce que tu feras à ma place?
Voilà, qu'est-ce que tu feras à ma place? Ou alors cette situation où elle s'en va, on lui a dit non, et puis les gens la rappellent. Ou finalement, les gens sont dans cette situation de honte par rapport à la décision qu'ils ont prise, ils la voient partir, ils la rappellent. Bah, je trouve qu'en fait, ça, c'est assez crédible, justement, parce que je pense qu'on ne peut pas imaginer une situation qui soit chaque fois complètement différente. Les gens sont quand même...
Ah non, c'est très juste,
dans un prisme. Voilà.
C'est très juste, c'est juste que c'est c'est pas forcément... Mais
est-ce que vous avez cru à cette scène où une femme lui dit bah non, c'est pas possible parce que je dois faire ma terrasse, je dois refaire ma terrasse, et puis 5 minutes après, elle la sauve de la mort, elle a quitté son mari, elle a tout plaqué, elle devient une sorte de passionnariat.
C'est le côté un peu schématique du film.
C'est ça, voilà.
Comme
c'est
disait
un peu
Guy.
Symbolique, quoi.
Oui, comme dit, voilà, on est plus dans le symbolisme, moi, je trouve. C'est comme disait Guy, les personnages n'ont pas vraiment le temps d'exister, les autres personnages que ce couple. Et du coup, tout ce qui leur arrive, on a l'impression que c'est un peu un éventail de ce qui peut arriver, des conséquences d'un tel système. Il y a une tentative de suicide, il y a un père et un fils qui se disputent, un couple qui se sépare. C'est vrai qu'on si on se situe dans le pur naturalisme, on n'y croit pas vraiment, mm-hmm. en fait, que ça se passe tout ça sur un week-end, mais je pense que ouais, on peut l'accepter en voyant le film.
Oui, et je trouve ça vachement intéressant. C'est marrant parce que j'avais aussi pointé une séparation de Faraday. C'est pour moi le même genre de cinéma qui fait quand même reposer un suspense, parce que pour moi il y a quand même vraiment un suspense mm-hmm. dans ce film, sur des questions de morale, mais sans moraliser, quoi. C'est-à-dire comment les hommes peuvent s'affronter, se retrouver finalement dos à dos, puisque là, par exemple, il y a une absence de syndicat, par exemple, dans cette entreprise. Donc voilà, les situations ouais. peuvent se prendre homme à homme, face à face. Ce qui était un peu le cas aussi dans Une séparation, mais s'ils n'avaient pas recours à voilà, une justice sociale. Et je trouve qu'il y a quelque chose de très fort humainement, parce qu'à partir du moment où son sort dépend des autres, voilà, c'est une démarche qui brasse quand même des questions très importantes à partir du moment où on doit tourner le doigt à l'individualisme. Et voilà, ça pose des questions de bonté, de solidarité. Voilà, c'est quand même des thèmes qui sont assez passionnants et difficiles à traiter au oui, cinéma et... de manière juste. Et je trouve qu'ils parviennent quand même à trouver le bon ton, et avec ce personnage qui est quand même de Marion Cotillard, qui est quand même... Bon, moi, je suis pas du tout fan de Marion Cotillard, mais pour le coup, je trouve qu'elle ne s'impose pas, au contraire de toi. Je l'ai pas senti s'imposer entre elle et son personnage. Alors que
tu t'es jamais dit
que j'ai ressenti avec elle.
Marion Cotillard qui fait un lit. Waouh, ça doit la changer. Marion Cotillard qui met des vilaines chaussures. Waouh, ça doit la changer.
Elle a réussi à m'émouvoir, en fait. Et je trouve qu'elle, en tout cas, dans son discours, c'est aussi assez beau de voir de porte en porte que son discours se construit un peu. Et finalement, effectivement, elle s'appuie tout le temps sur les mêmes mots. Mais parce que, voilà, le courage doit aussi passer par là. Je pense qu'il y a une forme de discours théorique qui se crée. Et je trouve qu'on a le bon ton, là, entre humanité et pitié, quoi. On n'est pas dans la démonstration ni dans le pathos. Cette femme, elle n'est jamais dans le pathos à parler de sa situation, de ses enfants, à essayer de demander, alors que c'est quelque chose qu'elle ressent au fond d'elle. Je trouve que c'est tout ce... Voilà, cette espèce d'équilibre qu'elle arrive à trouver. Et
Là, tu sens, il y a une justesse du regard des Dardenne,
oui.
qui est... Ça, c'est évident.
Oui.
Voilà. Et puis, elle, moi, ce que je trouve fort aussi, c'est qu'elle prend chaque fois du... Elle acquiert de la conviction au fur et à mesure qu'elle sent que ça peut arriver. Elle reste voilà. plus longtemps devant les gens. Elle fait face aux gens et elle fait front, quelque part. Mais... Voilà, l'un dans l'autre, malgré tout, ça reste, tu vois, ça reste quand même un peu artificiel, dans le sens où c'est très hollywoodien aussi, malgré tout, dans le processus, puisqu'on arrive à une espèce une scène finale où tout est ouvert, enfin tu vois, tout est ouvert.
Mais la scène finale, je trouvais très belle.
Très belle, ouais.
Juste avant la scène tout à fait finale, il y a un petit twist du scénario qui est quand même assez, bon, on pourrait prendre ça pour une forme de coquetterie, voilà, c'est pas exactement ce qu'on attendait. Et puis sans rien dire, mais la fin est quand même assez lumineuse comme l'ensemble du film, je
Absolument.
Trouve. Et on se rend compte que finalement, qu'elle garde son boulot ou qu'elle le perde, l'enjeu n'était pas exactement là. C'est-à-dire qu'il y a quand même un enjeu de bataille, de lutte qui compte.
Ça,
et ça,
vrai.
Je trouve ça assez...
Ça, c'est très réussi, je trouve.
Sisyphe,
ouais.
Sisyphe.
Oui.
C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Elle est heureuse elle peut être heureuse dans la lutte, quoi.
Absolument.
C'est
mais on est en train de presque spoiler la fin.
Non.
Non. Bon. on notera aussi que le film réhabilite une partie du casting de Fritcot, une série courte RTL de très sinistre mémoire, dont Myriam McAdieu, que je trouve être une très très grande comédienne, qui est cette fille d'origine méditerranéenne, qui a des mèches un peu claires et qui dit qu'elle vient de se séparer de son mari et qu'elle doit racheter une nouvelle télé. Vous vous souvenez?
Ah oui, qu'elle doit repartir à zéro, quoi.
Ouais. Ouais. Et donc je trouve que c'est plutôt pas mal.
Elle joue très bien d'ailleurs, elle.
Oui, elle est vraiment
elle est
super.
Très crédible.
Ouais, et faudrait la voir plus, je trouve. Alors 7 sur 10 pour ma part, parce que bon, bah, j'aime quand même beaucoup les Frères Dardenne, même si j'étais déçue par ce film. Guy?
Pareil, 7.
Nico?
Oui, moi je m'en tiens à 7 aussi.
Ok, Isaline?
Bah, moi je vais mettre un bon 8.
D'accord. Alors, dans les pages de Focus, Louis Danvers, qui est assez mitigé, écrit ceci. Les Dardenne ont l'art de conjuguer remarquablement intensément enjeu social, moral et intime dans une action concentrée, ramassée et haletante. Deux jours une nuit ne fait pas exception. Et plus tard, il nous dit, deux jours une nuit touche juste et bien, même si on peine à y trouver le sentiment d'urgence de la promesse de Rosetta ou du fils, surtout cette force stupéfiante qui nous chevillait au personnage jusqu'à nous faire respirer à leur rythme.
Focus Store.
Mai 67, c'est le titre d'un roman de Colombe Schneck qui a brodé autour d'une phrase de l'autobiographie de Brigitte Bardot, à savoir, ouvrir les guillemets, F qui m'a consolée de mon mariage de pacotille, fermer les guillemets. F, c'est l'assistant costumier sur Histoire extraordinaire de Louis Malle, je pense, un jeune homme d'origine modeste qui assiste médusé à la parade nuptiale de la plus belle femme du monde, loin d'avoir prévu de la séduire. L'histoire vite expédiée, mais F ne l'oubliera jamais. À tu et à toi avec bébé, et lui écrit comment il s'en souvient. C'est un très joli court roman, très tendre, qui examine Bardot sous toutes les coutures, littéralement, avec gourmandise et vivacité. Bardot qui sort de ce livre incroyablement vivant, traversé par l'énergie de l'époque et celle qui lui est propre. Aujourd'hui, bon, elle n'est pas morte, mais on se comprend. J'ai été très, très touchée par cette jolie romance. Isaline, je pense que c'est ton cas aussi.
Oui, j'ai trouvé que c'était un joli roman. Je trouve que effectivement, il y avait là un sujet romanesque dont il fallait s'emparer, puisque dans Initial Bébé, là, elle parle de ce F qui lui a pensé le cœur juste donc en mai 67, c'est-à-dire au moment où il est encore marié à Gunther Sachs, une espèce de playboy milliardaire
qui ne l'aimait pas,
qui l'avait parié aux cartes en fait, c'est ce qu'on dit dans le livre, et qui avait l'habitude de se balader comme ça avec un guépard en laisse, une espèce de gars complètement atroce, qui ne l'aimait pas. Elle était très amoureuse, donc elle était très malheureuse, et on est à quelques mois de sa rencontre avec Serge Gainsbourg, et elle joue quand même un film avec Alain Delon, et au lieu de pour Roger Vadim ou pour Louis Malle, ils sont tous amoureux d'elle évidemment. Elle choisit ce F, hein, donc un espèce de sinistre anonyme, un homme qui n'est rien, qui ne sera même pas cité au générique du film.
Oui, et qui n'avait même pas, lui, d'ambition amoureuse. Il a vécu sa vie amoureuse un peu avec ce qui lui tombait sous le nez, quoi.
Enfin, du coup, on n'en sait rien, mais dans Initial Bébé, elle parle juste de cette initiale, effectivement, qui, voilà, on passe complètement au-dessus. Alors que Colombe Schneck s'en empare en romancière et imagine cette histoire qui est quand même, je trouve, un chouette point de départ. Je trouve que le postulat est assez beau. Voilà, cet homme qui a finalement très peu de preuves de son histoire d'amour avec Bardot et qui chérit, du coup, chaque détail d'une histoire qui se les repasse comme ça avec une sorte d'incrédulité émerveillée, tel détail, telle lettre, avec du coup un côté un peu répétitif dans le livre, mais qu'on peut imaginer juste par rapport à l'obsession d'un homme, voilà, qui se remémore une histoire d'amour qui a eu lieu il y a des années.
Et qui a duré 10 semaines seulement.
Voilà. Et c'est vraiment le roman d'une éducation sentimentale qui a eu lieu en mai 67, donc une autre forme de révolution, c'est vrai que c'est assez joli. Et il dit, voilà, Bardot a été pour lui une sorte de professeur d'amour, elle l'a conduit vers le romantisme et la modernité, des choses absolument nouvelles pour lui. Et je trouve que par exemple il y a cette scène incroyable où la manière dont Bardot le drague, en fait, parce que Bardot, voilà, elle allait vers les hommes, elle montrait son désir, c'était effectivement très très novateur pour l'époque, et cette scène, elle est assez irrésistible, assez enfantine, puisque lui, il tente par tous les moyens sur le film de lui adresser la parole, juste la parole à propos d'une perruque qu'elle doit mettre pour le film, une perruque brune, et puis en fait tout à coup elle lui demande de venir lui lire un livre dans sa chambre. Bon, il y croit pas complètement, et puis l'assistante de Bardot qui l'appelle dans sa chambre et qui lui dit, mais qu'est-ce que vous faites, elle vous attend là, donc venez immédiatement, elle est complètement en demande, et est complètement incrédule. Il arrive dans la chambre, on se demande même comment il arrive à lui faire l'amour tellement il est impressionné par elle. Et voilà, je trouve que c'est vraiment une très très belle scène qui est assez je trouve assez à l'image du livre, c'est-à-dire un livre qui ressemble à Bardot, voilà, qui est une sorte de portrait très joyeux comme ça, très espiègle, qui sent bon la vie et l'été. Voilà, un livre qui repose vraiment sur une accumulation de petits détails. J'ai rencontré Colombe Schneck, elle m'expliquait qu'elle avait vraiment travaillé comme ça, par une accumulation de détails.
Mais elle s'est documentée,
Rencontré en fait des hommes qui ont eu une liaison avec Bardot. Alors c'était marrant parce qu'elle m'a dit, c'est pas difficile aujourd'hui de rencontrer des... Il y en a eu beaucoup. Et puis elle dit, j'ai des amis à Saint-Tropez, il suffit de faire savoir un peu. Et puis elle dit, le père d'un copain, d'un copain, d'un copain, je savais qu'il avait eu une aventure avec Bardot, donc je les ai rencontrés. Et tous ces hommes se sont confiés à elle. On confie un peu leur histoire. Et du coup, on a tous ces petits détails de différentes histoires qui composent un portrait tout à fait crédible, avec des tas de détails qui sont très touchants et qui sonnent assez justes, où on découvre une Bardot qui aime le confortable, le rond, le doux, le fleuri, une fille qui aime que les gens s'aiment, qui aime coucher avec les garçons, qui drague. Que Colombe Schneck le dit très bien, c'est une fille qui mène une révolution presque à elle seule, et sans le faire exprès, puisqu'on est évidemment dans la révolution sexuelle est vraiment à leur porte à ce moment-là. Et c'est aussi un livre qui montre quand même que Bardot a été un peu désigné comme une sorte de victime un peu expiatoire d'une France bien pensante où c'était très mal de montrer son désir, de montrer ses jambes, tout simplement, parce que Bardot, c'est quand même la première femme à avoir mis un costume bermuda bleu cacharel.
C'est vrai.
Qui est quand même assez marquant dans le livre. les femmes à l'époque portaient des tailleurs, voilà, ça se faisait pas du tout. Et ça, je trouve que le livre le rend assez bien, quoi.
Qu'est-ce qu'on peut dire après ce qu'Isaline vient de dire, Nico?
Bah, Isaline parle très bien du livre. Ça te fait rire aussi. Mais moi, ça m'a assez indifféré, je dois dire.
Ah oui.
J'ai trouvé
mais
ça.
Mais tu n'as pas de cœur aussi. Enfin, c'est peut-être ça.
tu reprends une réplique du film Les Frères Dardenne.
Les stars Hollywood. Tu sais, les stars hollywoodiennes, c'est comme ça.
Hein. Non, mais. Le livre, ça m'est passé un peu au-dessus de la tête. Honnêtement, j'ai trouvé ça un peu vain, un peu futile. Le projet qui était annoncé en quatrième de couverture était assez tentant. Je dois dire, donc c'était noté. Je pense, comment peut-on aimer quand le monde entier vous désire? Je trouve que cette question-là est assez.
On n'a pas vraiment la réponse.
Oui, voilà. Je trouve que le livre n'essaie même pas d'y répondre. Maintenant, voilà, c'était peut-être pas le projet à la base non plus. Il y a plusieurs choses. Déjà, moi, la narration en tue. Puisqu'en fait, ce personnage, donc ce type qui aurait eu une relation pendant 10 semaines avec Bardot, lui écrit 30 ans après, hein, c'est bien ça, en 97, je pense. Enfin, s'adresse à elle, en tout cas, par le biais du roman. Je trouvais ça vraiment très lourd, en fait. Le livre en tue, je trouve ça assez pénible. C'est pas quelque chose que vous avez...
Moi, j'aime plutôt bien, en
ouais,
fait.
Moi aussi, j'ai trouvé ça d'accord. Assez touchant. Ouais.
Je trouve que ça permet pas vraiment de creuser, et c'est un peu ça le problème du livre ici. En fait, c'est une sorte de portrait détourné de Bardot via le biais d'une romance fictive, et on se demande un peu pourquoi elle n'a pas simplement écrit un portrait de Bardot.
Mais tu vois, pour moi, c'est quand même un peu ce tu est assez touchant, parce qu'il est... Il évoque aussi cette sorte de dialogue qui s'est arrêté, quoi. Qu'aujourd'hui, il n'a plus du tout accès à Bardot.
Oui, d'accord.
C'est toujours ça qui est un peu terrible aussi dans les histoires d'amour qui s'arrêtent, c'est qu'il y a un dialogue qui... Voilà, on s'adresse plus en tue à la personne, enfin c'est... Ouais, je sais pas, je trouve ça assez juste.
Oui, mais ça amène quelque chose, pas de pathétique, parce que le livre n'est pas non plus dans le pathos, mais de... Enfin, j'ai trouvé d'un peu vain, en fait. Et je me suis dit, finalement, ce livre qui est très documenté, qui nous brosse un portrait sans en être un de Bardot, effectivement, pourquoi passer par la fiction? Ouais...
Mais il fallait choisir un moment de sa vie pour que ce soit plus intéressant qu'un biopic simple.
Ben moi, je préfère un biopic sur Bardot que lire ça. J'ai l'impression que j'apprends rien sur Bardot, j'ai l'impression que j'apprends rien sur l'amour. Enfin bon, voilà. Et que le livre n'est pas non plus passionnant parce que c'est des tout petits moments comme ça, des sortes d'instantanés de leur relation.
Ouais, c'est très impressionniste, mais c'est vrai que c'est par petites touches comme ça. Mais du coup, ouais, j'ai l'impression qu'on y est, quoi.
Ouais, voilà, je suis passé un peu à côté.
C'est comme une sorte de polaroïde d'une époque. Après, ça n'a pas beaucoup de prétentions en plus.
Non.
C'est ce point.
Alors, qui...
Moi, je suis pas d'accord avec Nicolas pour le coup. Je suis plutôt d'accord avec vous deux, les filles.
Mais non.
Oui, non, je vous promets. Moi, j'ai trouvé ça assez subtil et c'est un joli portrait de femme, en fait. Mm-hmm. Et parce que Bardot, c'est vrai qu'on a l'image maintenant d'une espèce de vieille rombière amoureuse de ses chats et d'extrême droite.
Ouais.
Ce qui, dans l'époque, c'est quand même. Ça pose quand même une question aussi. C'est pas anodin que ça sorte aussi maintenant. Enfin, quand tu vois, je sais pas, c'est probablement un hasard, mais. Il s'avère que maintenant l'extrême droite en France est en train de faire un gros carton, comme on l'a tous vu. Et c'est vrai que ça pose quand même la question de savoir, en fait, cette femme à l'origine, c'est juste une femme, quoi. Et elle a pas la haine de ses contemporains à la priori, parce qu'elle est plutôt pleine d'amour quand tu lis le livre. Elle a plutôt envie de faire le bien autour d'elle. Elle a envie que les gens soient heureux. C'est du moins de la manière dont Colomb-Schneck fait le portrait de Bardot. Et donc elle est, voilà, c'est un joli portrait de femme. Et puis il y a surtout cette espèce de cruauté de la relation entre la plus belle femme du monde que tout le monde veut. Et chaque fois qu'elle rentre dans un restaurant, les gens se retournent, les gens s'arrêtent, les gens ouvrent la bouche et restent figés quelque part. Et lui, qui est complètement hors contexte, il sort avec la plus belle femme du monde, et lui, il n'arrive toujours pas à y croire. D'ailleurs, tu sens qu'il n'y croit pas, même aujourd'hui, enfin même quand il écrit
et qu'il est en train d'écrire ce livre pour essayer de se convaincre
qu'il a vécu, parce que de fait, je peux très très bien visualiser le fait que il n'est plus de preuves tangibles. Il n'a pas de photos, je pense. Il n'a pas des masses de preuves. Et donc, il doit lui-même se convaincre quelque part d'avoir vécu ça avec Bardot. Et ça, c'est très joli, je trouve, dans le livre. J'aime bien. Moi, j'ai pas été dérangé plus que ça par le procès. C'est vrai que sur la longueur, c'est parfois un peu pesant. Le tu, ça, c'est une très longue lettre quelque part. Mais sinon, je trouve l'écriture assez lumineuse, assez fraîche. Il n'y a pas de gros effets, mais en même temps, c'est assez bien écrit, je trouve, sans lourdeur, c'est léger, c'est en même temps ça dit pas mal de choses sur elle, et moi ça m'a
plutôt bien plu en fait dans l'ensemble.
Ouais, je pense que c'est vraiment le roman parfait pour l'été. Quoi. Oui. C'est vrai qu'à un moment elle dit, que Brigitte Bardot signait ses lettres au feutre violet et puis qu'elle mettait une espèce de lotion mentholée sur ses jambes après le soleil. Et je trouve que c'est vraiment un livre qui a un peu cette odeur et cette apparence là, quoi, une odeur d'après soleil et de. Et c'est un roman qui montre, qui reste très léger, mais qui montre quand même qu'une histoire d'amour peut aussi se loger dans des petits détails infimes et délicieux et marquants comme ceux-là. Quoi.
Et puis finalement, ça reste, c'est aussi un livre un peu cruel, hein, puisqu'il n'en reste plus rien de cette relation. Il reste une ligne dans une biographie.
Mais c'est ça, la cruauté du truc, c'est qu'une femme comme Bardot, c'est-à-dire qu'elle ne se retourne pas. Quoi.
Ouais.
Elle ne se retourne pas, c'est-à-dire que quand elle te dit au revoir, c'est fini, elle est partie pour toujours. Et lui, il est pour avoir connu plein d'histoires foireuses, ça m'a touché parce que c'est vrai que quand tu sors avec une femme comme ça, forcément, t'es amené à la voir tout le temps, à l'entendre tout le temps, et ça doit être terrible. Ça doit être terrible de se dire, je l'ai eu entre les mains et elle m'a aimé un moment, et de maintenant savoir qu'elle est partie pour toujours et de l'entendre à la radio, de la voir dans les journaux, etc., etc., etc. Ça doit être très, 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 très douloureux à vivre. Et là, et
je pense aussi à tous mes ex.
Non, mais c'est aussi un livre sur la reconstruction quelque part, parce que lui explique comment est-ce qu'il essaie de se reconstruire, et c'est pas facile, mais en même temps il y arrive, et je trouve qu'il y a il y a des choses vraiment, je sais pas, moi ça m'a touché, je trouve ça assez juste.
Oui, eh bien moi je lui mettrais même 8 sur 10 pour ce petit bouquin, probablement pas inoubliable, mais agréable. C'est un peu plat de dire ça, mais agréable.
Moi je vais mettre 7.
Ok, Nico.
Je mettrais un petit 6, voire un gros 5. Un gros 5, voilà.
Isaline.
Moi un 7, voilà.
Et Mai 67 est paru chez Robert Laffont, c'est un bouquin signé Colombe Schneck.
Prime Minister Michael Callum, my life. My life depends on you.
Le festival Are You Série se tient en ce moment en collaboration avec Focus à Beaux-Arts. C'est l'occasion d'aborder un des gros morceaux programmés qui vient de passer à la télé chez nous sur France 4. On vous parle de Black Mirror, une mini-série anglaise, ou plutôt devrait-on dire une mini-collection anglaise, puisqu'en fait rien ne se suit. C'est une succession d'unitaires en fait, produit par Endemol, ce qui est à la fois ironique et surprenant, puisque le fil rouge de Black Mirror, c'est justement de pointer les dérives de la société de l'écran. Big Brother is watching you, on est clairement dans de anticipation à la Orwell. Black Mirror propose des récits particulièrement traumatisants hein, sur deux saisons sans déchets. Son tout premier épisode nous confronte à nos propres limites en exhibant un premier ministre sommé de copuler avec une truie en direct à la télévision. C'est la rançon réclamée par les ravisseurs d'une princesse. Je vois pas très très bien comment on pourrait dire du mal de Black Mirror, qui n'est quand même pas très loin du chef-d'œuvre noir, mais peut-être que tu vas désinguer la série, Guy, je n'en sais absolument rien.
Bah non, en effet, c'est très difficile d'en dire, du mal. C'est une série quand même à la limite de la théorie, mm-hmm. puisque on nous expose
ce que ça pourrait être
si, et ce que ça pourrait être quand, dans la mesure où si on continue comme ça, effectivement, être dans une espèce de société de l'écran et de où tout est vu par le prisme d'un écran, d'un téléphone, mm-hmm. d'une télé ou quoi que ce soit. Voilà, c'est les dérives vers lesquelles ça peut nous mener. C'est dit avec pas mal de conviction, parce que ça n'épargne rien, et en plus c'est dit de manière esthétiquement de manière très forte. C'est-à-dire que les épisodes sont vraiment bien foutus. C'est de la série de très haute qualité. Et c'est bien joué, c'est bien écrit. Et chaque épisode, effectivement, il y en a 6 pour le moment, donc c'est-à-dire 2 saisons de 3 épisodes. Chaque épisode dit quelque chose de différent, mais tout en gardant un fil rouge, comme tu l'as dit, qui est cette espèce de fil rouge un peu du voyeurisme et de la manière dont
et de la surveillance, ouais, aussi.
Surveillance, ouais, tout ça, exactement. D'ailleurs, le générique de Black Mirror, c'est un carton sur fond noir Black Mirror en blanc avec un espèce d'écran qui se fissure, et ça dit déjà beaucoup de choses sur ce que va être la série. Après, bon, forcément, il y a des épisodes qui sont parfois un peu plus forts que d'autres. Celui de la truie est très fort, parce que ça commence de manière assez inattendue. C'est quelque chose qu'on n'a jamais vu ailleurs. On pose un problème théorique et on l'illustre avec
jusqu'au bout.
Jusqu'au bout, et on a peur de rien. Mais c'est vrai. Charlie Brooker qui a commis la série avait déjà. C'est un journaliste très célèbre et un présentateur célèbre, un satiriste en fait en Angleterre. Sa société, c'est une émanation d'Endemol. C'est pas exactement tout à fait Endemol en tant que tel qui produit, mais c'est vrai que ça pose quand même une sacrée question de savoir. Endemol qui est, c'est quand même d'un cynisme, à la fois d'un cynisme absolu et en même temps.
C'est très sain aussi.
Oui, voilà. C'est-à-dire qu'Endemol, on connaît tous Big Brother, comment ça s'appelle, la maison, Love Story et toutes ces joyeusetés. On sait à quel point Endemol a participé à une espèce de
perversion,
de la télé.
Mais de tout, hein, de tous les médias en fait.
Fait des jeux pourris, etc., des trucs comme ça. Et finalement, on se rend compte que c'est une de ces émanations qui crée peut-être l'un des produits télévisuels les plus forts et les plus marquants de ces derniers temps, qui dénonce justement les dérives vers lesquelles ça peut mener. Donc c'est quand même curieux. Je sais pas ce que tu en penses, Isaline.
Qui acquiesce.
Mais j'acquiesce, oui, je trouve ça, effectivement. Enfin, je savais pas tout ça avec Endemol, mais je trouve ça assez fou, quoi, comme idée, qu'il puisse produire une série qui les critique de manière assez directe. Moi, je trouve qu'il y a un vrai plaisir au principe d'une série d'anthologie, j'en ai pas vu beaucoup, à devoir comme ça cerner à chaque fois en quelques minutes des nouveaux personnages, une nouvelle situation, des enjeux différents. Et en tant que spectateur, je trouve qu'on doit être vachement actif par rapport à ça. C'est pas le confort de personnages qu'on retrouve, etc. Il faut être vachement actif. C'est comme entrer chaque fois dans un roman différent. Voilà. Après, moi, je me les suis enfilés du coup sur un week-end. Et je trouve que c'est pas à conseiller parce que
ça fout le bourdon.
Le temps de digérer un peu les épisodes. Hein. Je trouve que, en plus, chaque épisode a quand même un peu la force de frappe d'un film. Enfin, on s'en remet pas si facilement. C'est quand même, en plus, une série qui baigne carrément dans le pessimisme, la noirceur assez poisseuse. Hein. Ça remue quand même des trucs vachement inconfortables, glauques, parfois carrément sordides et en tout cas désabusés sur l'homme et l'humanité. On est vraiment à l'opposé des Dardennes pour le coup. Et je trouve qu'on se sent parfois un peu plus sale, un peu corrompu après avoir vu Black Mirror. J'ai un peu vu ça comme une suite de cauchemar un peu halluciné, imaginé par un esprit pervers.
Mais le titre Black Mirror, ça dit très très bien ce que ça veut dire. C'est un miroir dans lequel une image noire de toi-même est renvoyée quelque part.
Et avec en plus, je trouve une espèce d'esthétique du cauchemar quand même, avec des teintes un peu sombres, une espèce de temporalité un peu étrange comme ça. Voilà, un peu anesthésié, parfois très rapide, un peu étrange. Après, effectivement, Black Mirror, c'est un peu l'idée de la technologie qui n'est pas... c'est une série concept, hein, donc chaque épisode est une sorte de démonstration un peu implacable, avec l'idée de toutes ces questions qui sont quand même vachement, vachement intéressantes et vachement concernantes par définition.
Mais comme avec l'affaire Dardenne, je trouve que ça nous confonde à « et nous, qu'est-ce qu'on ferait dans ces cas-là »« Qu'est-ce qu'on ferait si on vivait dans ce genre de société ?»«
Quel pouvoir les écrans vont prendre dans nos vies ? Est-ce qu'on va vraiment devenir prisonnier de l'image qu'on donne de soi sur les réseaux ? Qu'est-ce qui se passe quand l'homme essaye de nier sa condition, par exemple de rendre sa mémoire illimitée ? Enfin, c'est des trucs complètement hallucinants pour accéder à une sorte de toute-puissance. Comment est-ce qu'on accède aux autres au-delà du miroir qui renvoie ? Je trouve que tout ça, c'est des questions assez brûlantes. Et que l'anticipation, parce que c'est quand même une série d'anticipations qui se passe un peu dans un futur excessivement proche, hein, c'est pas du tout appuyé. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur une série qui va mettre en valeur les technologies qu'elle présente. On est plutôt dans l'étude des effets, c'est-à-dire comment les technologies, comment les réseaux, comment la télé-réalité vont plutôt faire ressortir des choses de notre humanité. Et ça, c'est ça qui est vachement intéressant. Parce que moi, si ça avait été sur une science-fiction au niveau qui rendait la technologie vraiment au cœur de son propos, ça ne m'aurait pas intéressé. Ce qui m'intéresse, c'est de voir les effets sur les humains. C'est-à-dire comment est-ce que finalement la technologie, les écrans, deviennent un peu le miroir noir de ce qu'on est au fond. Et pour le coup, le constat est quand même assez terrible. Après, j'ai quand même des réserves sur certains épisodes. Tu disais rien acheter. Moi, je trouve qu'il y en a quand même qui sont plus faibles.
Lesquels ?
Par exemple, le premier épisode de la saison 2.
Sur cette femme qui ressuscite son mec.
Voilà, je trouve que pour le coup, les 50 minutes, c'est un peu court. Quoi,
ça vous a pas fait penser à Her ?
Oui,
fond.
Complètement, oui.
Et à Real Humans aussi, avec les U-Bots.
Oui, c'est ça, oui.
Ces robots domestiques.
Je trouve que ça va pas assez loin. Et voilà, pour le coup, l'idée, est de nouveau, est assez bonne, mais je trouve que c'est pas exploité.
Il n'en fait rien dans cet épisode-là. Enfin, c'est-à-dire que
les épisodes, dans les épisodes, souvent il y a une chute ou une sorte de, ouais, de cliffhanger comme ça assez fort. Et dans celui-là, en fait, la bonne idée, elle est au milieu de l'épisode et voilà, puis après, ça ne va vers pas grand-chose. C'est pas tellement intéressant, c'est vrai. Mais ce qu'il y a, c'est que ce qui est intéressant dans la série, c'est que comme dans Heure de Spike Jonze justement, le futurisme de la réalité de la série est vraiment très suggéré, c'est parfois juste dans un détail, quoi. Dans le tout premier épisode de la première saison, donc cet épisode où un ministre, donc suite à cet enlèvement dont tu parlais, un ministre est obligé de forniquer avec un cochon à la télévision, en fait, ça pourrait arriver. Il n'y a rien dans cet épisode qui est anticipatif, en fait. Hein. C'est-à-dire que, je sais pas, Mathilde pourrait se faire enlever, dire au pauvre, devrait forniquer avec une chèvre, ça pourrait être tout. Bon, il invente un peu, c'est une sorte de terrorisme d'un genre nouveau, mais ça pourrait se passer. Je trouve que la série est plus forte quand il y a une dimension. Oui, futuriste, mais très discrète comme ça, qui renvoie effectivement par effet miroir à ce qu'on peut vivre aujourd'hui. Moi, je trouve le deuxième épisode est vraiment formidable, donc cette sorte de satire poussée à l'extrême de la télé-réalité, justement, où en fait, on se rend compte que on est devenu dans une sorte de, on est rentré complètement dans une sorte de société spectacle comme ça, et si tu te rebelles contre ça, ta propre colère et elle-même digérée par le système, c'est très fort. C'est, pour moi, c'est les t-shirts des Clash ou des Ramones qui sont vendus chez H&M, quoi.
Ouais.
C'est-à-dire que la révolte punk des années 70 a été complètement aujourd'hui digérée par le système, et un groupe de punk aujourd'hui ne peut plus avoir la même portée. Et tout ça a été, ça fait peur, mais c'est
transgressif et alternatif.
Ouais, c'est ça, mais c'est très fort en fait d'arriver par le biais d'un truc complètement d'anticipation comme ça à dire des choses qui sont très précises comme ça sur la société dans laquelle on vit. Le troisième épisode donc où il y a vraiment un tout petit élément où on peut revoir tout ce qu'on a vécu. Pour le reste, en fait, c'est une histoire de couple, en fait, c'est une histoire de jalousie, c'est une histoire de séparation, et c'est vertigineux parce que on se dit effectivement, ça parle de toutes les traces que les histoires qu'on vit aujourd'hui, donc tout le passé, le passé de notre entourage, le passé de la personne qu'on aime, à partir du moment où il est visible, en fait, c'est une source de conflits permanents et de souffrances permanentes, et c'est simplement quelque chose de très réel aujourd'hui, mais qui est poussé simplement un peu plus loin. Alors c'est vrai, là je rejoins Isaline, je trouve que la première saison est vraiment géniale, la deuxième saison j'ai trouvé assez inutile, en fait.
Même le deuxième épisode avec cette chasse à l'homme totalement traumatisante,
c'est clairement l'épisode le plus fort de la saison 2, mais je trouve que, et c'est un peu le danger, à partir du moment où le sujet entre guillemets de la série se porte sur les dérives potentielles des nouvelles technologies, le problème c'est que si on appuie un peu trop fort, ça vire dans le sentencieux, dans le moralisateur. Et je trouve que dans la saison 2, on est un peu là-dedans. On sent un peu trop ce qu'on veut nous dire, en fait. On vit un peu moins les épisodes, on se dit « Ouh là, oui, attention, on pointe ces dérives-là. » Et ça, c'est moins fort, ça devient un peu plus prêchi-prêcha.
Expliqué, ouais.
Voilà,
ouais. Un peu plus explicite aussi.
Moi, j'aime quand même bien la réflexion de l'épisode 3, malgré tout, de la deuxième saison, avec l'espèce de dessin animé, de cartoon, qui se balade de marché en marché pour se moquer des hommes politiques qui sont en train de faire leur campagne. Je trouve que ça pose aussi pas mal de questions. Ça aborde des sujets un peu différents, mais malgré tout, voilà. Parce que même si Nico a raison, quand tu grossis le trait, ça devient peut-être un petit peu sentencieux. Je trouve que tu ne t'ennuies jamais dans Black Mirror quelque part. Ça reste toujours de qualité quand même vachement intéressante.
Et d'ailleurs, c'est diffusé demain, on est vendredi, demain samedi à Beaux-Arts dans le cadre du festival Argus Série. Donc j'espère qu'on vous a donné envie.
Et donc d'une traite, quoi.
Ouais.
Ça, par contre, c'est quand même dur.
Je pense que c'est juste la première saison. Oui, prévoyez un peu de Prozac ou de Xanax en sortant. Guy, tu allais dire quelque chose? Non.
Non.
Non, d'accord. Mais moi, je mettrais même carrément 9 sur 10 pour cette série que je trouve assez belle et utile. Guy.
Je vais mettre 8, moi. Un bon 8.
Je mettrais 9 pour la première saison et plutôt 6 pour la deuxième.
Et Isaline.
Et moi, je vais mettre 8 à la première et 7 à la deuxième. Lights, camera, chemical reaction. Attracted to a body, a lot of fat asses. Think the most high for the higher high passion. My
the wars, killer couture, denim assassin. Am I douchebag or just another do-rag trying to get ahead on some brand new way shit? For your entertainment, money is the language, so every time I speak I'm trying to make another payment. I do them dirty, sleep and get a dirt nap, that works. Tell my P.O. ask me where I work at, think I would've learned that. Sleeping in the bird trap, living on a run like somebody trying to burn fat. I don't give a fuck, now maybe that's abstinence or the arrogance of someone who ain't got shit, that think money over bitches is a stock tip.
I live in a trap, things don't crack. Wake up in a box with a box of Apple Jacks. Everybody acts like God is all that.
The Roots est de retour avec un disque au nom évocateur, And Then You Shoot Your Cousin, précédé de trois petits points. 33 minutes de très bel ouvrage rap pour un album intelligent et adulte qui ne s'interdit aucune mélancolie. Le disque convoque d'ailleurs littéralement Nina Simone. And Then You Shoot Your Cousin prouve à ceux qui auraient la mémoire courte que The Roots, ce n'est pas que ce groupe d'entertainers à tout faire derrière Jimmy Fallon. Ce sera, je pense, pour moi l'album de l'été. L'été sera chaud, l'été sera sombre. Un petit mot sur ce disque, Nico, même si je sais que tu n'as pas grand chose à en dire à part que c'est bien.
Oui, c'est-à-dire que j'ai pas du tout suivi la carrière du groupe, même si je dois avoir un ou deux disques à la maison, et le hip-hop a priori c'est pas, pas que c'est pas ma tasse de thé, mais c'est pas du tout mon domaine de prédilection, donc j'ai effectivement pas grand chose à dire, si ce n'est que pour le coup je trouve que effectivement c'est, donc, c'est un groupe de hip-hop de roots, mais ça part dans tous les sens, et c'est ça qui est intéressant aussi, je trouve. Il y a un morceau un peu trip-hop à la Portishead, il y a un morceau beaucoup plus pop, un morceau plus soul. Il va même chercher, je pense, à un moment, un sample de musique concrète, en fait, et on part presque dans l'expérimental. Et je trouve qu'il y a une sorte de gourmandise, comme ça, dans le disque, qui est très cohérente. Ça pourrait être n'importe quoi, ça pourrait ressembler à rien, et en fait, c'est un disque assez court, et qui s'écoute vraiment d'un bloc, qui s'écoute comme un album, hein, ce qui n'est pas toujours le cas de ce genre de disque. Et donc en fait, ouais, moi j'ai écouté ce disque vraiment avec beaucoup de plaisir. Je trouve que les mélodies sont imparables et il y a une tension permanente.
Tubes, de singles potentiels.
Oui, tout à fait, tout à fait. Enfin, pratiquement un morceau sur deux, moi j'ai l'impression que c'est dans un monde idéal, en tout cas, ça, un morceau sur deux passerait à la radio.
Oui, ce serait bien.
Voilà.
Guy, qu'est-ce que tu peux nous en dire?
The Roots a toujours été, a toujours joué avec les limites. Enfin, dès le départ, il y a plus de 20 ans maintenant, le band de Philadelphia se différenciait de la masse.
Je suis en train de lire là. Article de Laurent Prext en focus. Non mais résume-nous, qu'est-ce qu'il nous dit, notre chef des pages musique.
Bah, c'est vrai que The Roots ça a toujours été le espèce de groupe hip-hop qui joue avec des instruments. Moi je les avais vus à couleur café avec l'un des membres qui avait une espèce d'énorme je connais pas le nom de cet instrument, un espèce de grand basson ou que sais-je, un espèce de gros truc à cuivre en tout cas qui fait un peu la marque de fabrique aussi du groupe. Le groupe est devenu le backing band de l'émission de Jimmy Fallon, du Late Show de Jimmy Fallon. C'est-à-dire que c'est un groupe qui est...
C'est lui qui fait Evolution of Rap, le truc que tout le monde a vu avec Justin Timberlake, par exemple. C'est lui qui fait...
Si je m'abuse, parce que je me trompe souvent entre Jimmy Fallon et Jimmy Kimmel, mais il me semble que c'est bien Jimmy Fallon, en effet. Mais donc, The Roots, c'est un groupe qui a une espèce d'authenticité rap, comme ça. C'est un peu comme le Wu-Tang, où c'est... Voilà, c'est ces groupes qui sont jamais tombés dans le bling bling et qui sont jamais tombés dans le gangsta rap, The Roots a toujours été un groupe qui avait si pas un message à faire passer, au moins qui rappait de manière intelligente et voilà. Puis c'est un collectif aussi qui est un collectif un peu mouvant quand on voit les membres qui avancent, qui reviennent, qui partent. Enfin, il y a une notion collective qui est assez intéressante aussi. The Roots, c'est quand même You Got Me avec Erykah Badu. Il y a peut-être 15-20 ans maintenant, je pense, qui est probablement un des morceaux les plus marquants, je trouve, du rap soul de ces deux dernières décennies. Voilà, l'album en tant que tel, je l'ai pas eu l'occasion de l'écouter des masses. Je l'ai écouté, je trouve que c'est vraiment bien foutu, quoi. C'est difficile, tu sens, il y a une vraie maîtrise, il y a une inventivité, et ça reste. Ils ont quand même la niaque encore. Ça c'est joli, même si c'est très dense, ça dure une petite trentaine de minutes. Donc c'est pas énorme, mais moi ça m'a plutôt bien plu, en effet. Voilà.
Et toi, Iseline, toi qui es fan de Jeune homme anémique à Marinière, est-ce que c'est le genre de disque qui t'a parlé?
François, il y a ta santé,
c'est ça.
Mais c'est marrant parce que je suis tombée sur un article sur le web qui disait
disais, il y a deux types d'auditeurs des routes. Il y a ceux qui détestent le rap, mais qui l'acceptent quand il est joué sur de vrais instruments. Et puis il y a les autres. Moi, je suis définitivement du premier groupe.
Tu détestes le rap ?
Bon, c'est pas que je déteste le rap, mais voilà, comme Nico, quoi. C'est pas ce qui tourne le plus chez moi. Des routes, ça a toujours été différent. J'ai vraiment une sorte d'affection énorme pour ce. Enfin, c'est même pas de l'affection, c'est une sorte d'admiration et de. J'y reviens énormément. En fait. Mm-hmm. C'est un album que j'ai écouté énormément, que j'adore écouter en ville, par exemple. Je trouve que c'est Laurent Ebrecht, justement, dans son bel article sur les routes, qui parlait d'un album avec beaucoup de dissonance, beaucoup de fractures, du fait du collage, hein, parce que Nico t'en parlait bien. Voilà, il y a du pianiste jazz, il y a de la musique concrète, on passe par plein d'ambiances différentes. Je trouve que ça va très bien avec le fait d'être en mouvement, d'être dans la ville. Voilà, ça, je trouve que ça colle assez bien. Il y a évidemment aussi le fait que les Roots ils sont différents. Ils sont pas différents seulement parce qu'ils ont eu l'excellente idée de sampler le magnifique piano de Sufjan Stevens sur Rundown, ou d'avoir joué avec Johanna Newsom, mais aussi parce qu'il y a de vraies mélodies, je trouve, qui m'emportent, quoi. Voilà, qui me font un peu décoller. Et puis aussi, pour le coup, c'est vrai que c'est un album très court. Je crois qu'il fait 32 minutes,
33,
comme ça, 33. Et je voyais une interview de Questlove qui disait qu'effectivement l'album serait très court, suffisamment court pour qu'on puisse l'entendre à chaque fois, le digérer chaque fois en une écoute, et qu'on puisse arriver à l'entendre entièrement, c'est-à-dire 30 minutes, ça doit être à peu près la durée moyenne d'un trajet à Bruxelles, par exemple. Mais effectivement, on peut l'entendre d'un bloc. Et un album, en même temps, il voulait qu'il soit suffisamment dense pour qu'on puisse écouter à chaque fois quelque chose de différent, c'est-à-dire se concentrer par exemple sur une écoute seulement sur le piano ou sur les arrangements de cordes, et puis une autre écoute où on se concentre sur les paroles uniquement. Donc c'est vraiment comme ça un disque à plusieurs couches, et je crois effectivement qu'on va pas s'enlacer vite, parce qu'il y a, voilà, il regorge quand même de pas mal de richesses, avec forcément des hits évidents, des titres un peu moins faciles. Après, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez claustrophobe aussi dans ce disque, d'assez sombre, d'assez brut, presque funèbre à certains moments, mais avec de nouveau des mélodies qui paraissent très, très lumineuses, et donc on est vraiment là entre quelque chose de sombre et quelque chose d'assez lumineux. Voilà, j'aime beaucoup. Et puis j'aime beaucoup aussi parce que c'est une formation de hip-hop qui annonce quand même un album qui porte un regard satirique sur les stéréotypes véhiculés par la communauté hip-hop. Et puis c'est un disque qui quand même commence par Nina Simone, et puis qui laisse beaucoup de place aux femmes. Et c'est pas si souvent hip-hop, et je trouve ça assez... Voilà, les voix féminines font pas partie du décor, là, pour le coup. C'est vraiment... Ça fait partie de l'âme du disque.
Sur 10, tu lui mets combien ?
Je lui mets 9.
Ah ouais ? 8 pour moi, Guy.
Un gros 7, c'est bien.
Et Nico ?
Oui, moi je vais mettre 8. Et Iseline parlait de collage. En fait, moi je voulais parler juste de la pochette, qui est l'œuvre d'un artiste américain et qui a un collage, justement, ce qui est une bonne chose. Ça reflète bien le disque, mais c'est très moche. Donc là, la pochette est vraiment très très laide. Et c'est dommage pas, parce que. Mais non, mais c'est vrai, on a envie d'un disque qui soit un bel objet aussi, et c'est pas du tout le cas ici.
J'entends, artiste américain, continue à faire des collages, juste que ce soit pas moche la prochaine fois. Merci.
Merci.
Mais 8 quand même, donc.
Et puis pour terminer, un bref tour de nos coups de cœur. Le mien, c'est un bouquin. Il s'appelle Plongée, de Christophe Onodibio. Il est journaliste et romancier, responsable des pages culture du Point. Il m'avait déjà donné la passion de l'Asie avec son précédent roman Birman. C'était mon premier grand voyage. J'avais été en Birmanie suite à la lecture de ce bouquin. Et cette fois, il m'a vraiment refilé la fièvre des profondeurs avec un livre assez long. Je pense qu'il doit faire 450 pages.
Sur le Luxembourg. C'est malheureusement... Voilà.
Non, on sait pas très bien où ça se passe. Ça se passe visiblement quelque part, genre à Dubaï, mais c'est jamais dit. Et ça me donne pas du tout envie d'aller dans ce genre de pays. Très dense, ce bouquin écrit dans une très belle langue, très franche. Il a été grand prix du roman de l'Académie française et Renaudot des lycéens cette année. Il raconte le délitement d'un amour. Il est journaliste, elle est photographe, il s'aime d'un amour ardent, et puis un jour elle s'en va et elle meurt. Alors comment, pourquoi ? Les requins ont littéralement, les vrais requins, ont dévoré leur amour. Et c'est ce que raconte Plongée, dont on sort assez chamboulé, assez triste, gagné par la mélancolie de la mer. C'est vraiment très très beau, c'est à déconseiller aux dépressifs et aux fraîchement largués, évidemment, puisque ça fout vraiment le bourdon. Personne ne l'a lu ici, Isaline. Mais je te le conseille vivement. Mais je pense que tu aimerais beaucoup.
Je suis tout ouïe.
Allez, c'est à toi.
Mais moi, je vais vous parler d'une soirée.
Une soirée.
Voilà. Alors, pas dans le sens que vous l'entendez, puisque je vais vous annoncer tout de suite que c'est une soirée de Marguerite Duras, voilà, qui est organisée en fait par l'excellente maison de littérature Passaporte.
Avec des DJ et des trucs comme ça.
Mais quand voulez-vous que j'appelle ça une conférence une conférence en soirée qui se passe magiquement en soirée. Donc voilà, donc il se tient. Donc je répète que c'est Passaporta qui l'organise, qui est quand même vraiment une excellente maison, qui est toujours à l'initiative de bien des événements intéressants. Et pour le coup, Passaporta invite Laure Adler, qui est quand même une journaliste, grande journaliste et femme de radio française, spécialiste, amie et même biographe de Marguerite Duras, qui racontera donc son parcours exceptionnel et aussi la femme qu'elle a été, avec des archives sonores et visuelles et des lectures d'extraits de ses œuvres. Ça promet quand même pour le coup d'être vachement bien. Et ce sera à la Bellone le 17 juin à 20h. Et j'ai aussi un livre, mais je sais pas si...
Allez, vas-y.
Voilà. Un livre qui s'appelle Pour Ida Brown de Ricardo Piglia, c'est chez Gallimard. Alors on dit de Piglia qui a 74 ans aujourd'hui, je crois qu'il est l'un des derniers grands classiques de la littérature argentine, hein, la patrie de Cortázar ou de Borges. Alors il fait très fort, je trouve, avec son dernier roman Pour Ida Brown.
Et de Paula Sarac.
Dans la nouvelle génération.
De sinistre mémoire.
Donc là, pour le coup, il nous raconte l'histoire d'un écrivain argentin en pleine crise d'inspiration qui se voit offrir une place de visiting professeur dans la chaire de littérature d'une université nord-américaine, hein, genre Princeton, les vieilles pierres, les couloirs grinçants, la rivalité intellectuelle entre étudiants arrogants et supérieurement intelligents. Alors là, il entame une liaison complètement torride avec Ida Brown, donc, qui est une sorte de professeur star de l'institution, ultra belle, ultra charismatique, qui sera bientôt retrouvée morte, par contre, dans des circonstances très très étranges. Donc c'est vraiment un campus novel assez classique qui vire curieusement au thriller politique complètement addictif. Et dans un essai, Roberto Piglia expliquait qu'un roman, selon lui, devait toujours comporter deux histoires. Et là, il le démontre vraiment assez magistralement. Ça s'appelle Pour Ida Brown et c'est chez Gallimard.
Oh, tu ramasses vraiment bien ton propos, Isaline. C'est assez admirable. Nico, t'es venu avec quoi, toi ?
Je suis venu avec un film, pardon, j'allais dire un livre du coup. Mais je suis venu avec un film qui s'appelle A Field in England. Donc c'est le dernier film de Ben Wheatley, donc ce réalisateur de cinéma de genre britannique qui avait fait Kill List notamment.
Oui, que tu avais déjà présenté parmi tes coups de cœur dans cette même émission.
C'est tout à fait possible. Donc c'était une sorte de comédie sociale qui virait en presque film d'horreur, enfin une sorte de truc très très bizarre. Et ici, A Field in England, donc c'est un film qui n'est pas sorti au cinéma en Belgique, qui ne sortira même pas ni en DVD ni en Blu-ray, mais par contre qui est disponible en VOD, donc qui est sur l'iTunes Store notamment. Et c'est un film, c'est une sorte de thriller historique, c'est très bizarre. Donc c'est un film en noir et blanc, en costume, qui se passe au XVIIe siècle pendant la première révolution anglaise, dans un champ, avec des soldats déserteurs et un alchimiste qui cherche un trésor, qui en viennent à manger des champignons hallucinogènes. Et donc le film part dans une sorte de trip, mais complètement fou, vraiment. Donc le film est strictement interdit aux épileptiques, par exemple. Et si vous avez envie de voir un film auquel vous ne comprenez strictement rien, mais qui vous fascine complètement, c'est-à-dire, c'est vraiment partir dans un truc quasi sensoriel, en fait, esthétiquement magnifique, c'est super violent, en même temps c'est super poétique, et c'est vraiment un film expérience, un film trip. Donc ça s'appelle A Field in England.
Ah, voilà. Mais toi, tu l'as vu en VOD ?
Je l'ai vu en VOD.
Et c'est une expérience, même si c'est sur un petit écran ?
Tout à fait. Il faut regarder très près.
D'accord.
Voilà.
Et Guy, qu'est-ce que tu nous proposes ?
Moi, je sais que je vous en ai déjà parlé, mais je vais quand même vous en reparler. La saison 4 de Louis est sortie.
Mais putain, tu nous en parles chaque semaine.
Oui, je sais. Eh bien, parce qu'on n'en parle pas assez. Non, si je vous en parle pas chaque semaine. Je vous en ai parlé dernière fois en disant que ça allait sortir.
C'est ton Lost, en fait. Hein.
J'en avais deux à l'époque. C'est mon Lost, en effet. Louis, si tu nous entends, que tu as été comparé à Lost. J'espère que tu vas t'en remettre. Non, mais là, on est en plein dedans. On est au 8e épisode. Donc, je conseille à tout le monde de regarder ça sur vos meilleurs internets. C'est vraiment très... Et la quatrième est... Et je vais dire qu'elle est encore mieux que les autres, mais elle est au diapason. Et c'est vraiment à la fois drôle, parce que c'est hilarant à plein de titres, mais c'est surtout une réflexion poétique sur plein de choses.
Oui, parce que moi, je déteste les comédies. J'ai l'impression d'y perdre mon temps parce que ça raconte rien. Est-ce que ça raconte
bien
quelque
chose ? Bien sûr, ça raconte plein de... C'est pas une comédie... En soi, c'est pas très drôle, si tu veux, au jour le jour. J'ai dit au jour le jour. La série n'est pas très drôle en soi. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a des moments de stand-up où Louis est particulièrement brillant, puisque c'est certainement un des comédiens les plus drôles du monde. Mais en revanche, son regard sur la vie, son regard... Il y a des scènes qui sont absolument... incroyable. Il y a par exemple une scène où sa fille de 8 ans lui explique pourquoi est-ce qu'elle veut pas aller à l'école, et c'est un long plan séquence, enfin c'est un long plan, c'est pas un plan séquence, mais en tout cas c'est une longue scène où elle lui explique vraiment avec conviction pourquoi est-ce qu'elle, et c'est d'une justesse qui est, lui il écoute sa fille qui lui parle de ça et lui dit mais ils me font Christophe, elle lui dit par exemple Christophe Colomb était un meurtrier et ils me font dessiner Christophe Colomb en train de sourire quoi, et elle dit mais et les autres élèves sont cons, les profs sont cons, ils comprennent rien à rien, et tu vois, et dans l'arrière-plan dans une espèce de parc qu'il y a derrière eux, il y a un homme qui est couché, qui est manifestement mort et jamais on sait ce qui lui arrive à cet homme-là. Et donc t'as plein de différents niveaux comme ça dans la série. Et puis et par exemple t'as un épisode dans lequel il y a une fille qui est un peu plus grosse avec laquelle Louis peine à vouloir sortir et qui fait un monologue sur ce que c'est être une fille grosse, mais ça dure 4-5 minutes et c'est d'une justesse effarante. C'est pas drôle forcément, c'est terrible, mais il y a comme ça. C'est une série qui dit vraiment beaucoup de choses, parce que le gars a 45 ans, qu'il en a vu, et qu'il a deux gosses, et qu'il a plein de choses à raconter. Et voilà, c'est quelque chose, c'est une série qu'il n'y a personne qui m'a encore dit « je suis déçu de cette Mia Louis ». Et là, peut-être Nico va acquiescer. Acquiesce, Nico. Acquiesce.
J'acquiesce complètement.
Ok. Mais Guy, j'aimerais bien que tu nous racontes la fois où tu as voulu inviter Louis C.K. en Belgique, lui qui joue devant un parterre de 12 000 personnes à Londres, et toi qui voulais l'inviter dans un festival.
Oui, mais je savais pas. Moi, quand j'ai, je dois vraiment dire et je dois reconnaître que c'est Nicolas qui m'a fait découvrir Louis C.K. il y a quelques années maintenant, via cette série Louis. J'ai regardé la série, je trouve ça fantastique. En stand-up, je le trouve incroyable. Il est d'une drôlerie fabuleuse. En même temps, il dit beaucoup de choses. Et donc, je trouvais que ça aurait été intéressant de l'amener en Belgique, puisque personne, à mon sens, personne ne le connaissait, que c'était un petit comédien de quartier à New York. Et donc j'ai envoyé en effet un mail à son manager
qui t'a répondu,
qui m'a jamais répondu, un mail en disant est-ce qu'on ferait pas un petit festival ici en Belgique d'humour anglophone, ça pourrait être rigolo. Et moi je pensais amener 200 personnes à Leuven, genre avec un petit cachet de 200 euros pour lui, ça aurait été rigolo. Et il s'avère que quelques mois plus tard je suis allé le voir à Londres parce que je suis vraiment passionné par ce mec, et effectivement on était à l'O2 à Londres, et il y avait 12 000 personnes. Et donc là, j'ai compris qu'il était peut-être un petit peu plus connu que je pensais. En effet.
Mais maintenant que tu es en train de devenir une star toi-même du stand-up, il y aura peut-être un jour possible.
Mais je dois bien reconnaître que c'est certainement...
Une des raisons.
Louis C.K. est certainement l'une des raisons pour lesquelles je me suis lancé dans le stand-up. Ça n'intéresse personne, mais enfin,
un jour, on fera une émission d'interview avec toi, à la place d'un Focus Store.
Ça va, je pense que ça sera très intéressant. Je pense qu'il y aura énormément de vues.
Tu as un parcours atypique, en tout cas. Entre faire des corrections au journal L'Écho et monter tous les jours sur scène.
Et faire des DJ sets endiablés sur du Rihanna, peut-être. Oui, c'est vrai. Ouais. En effet, oui, on fera ça.
Inclassable, ce Giver Stratton. Bon, eh bien, c'est fini. Hein, c'est tout pour cette fois. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Salut à l'équipe. Salut à moi, s'il vous plaît.
Salut, Myriam.
Salut. Et à dans deux semaines, et profitez-en, ce sera l'avant-dernière de l'année déjà. D'ici là, lisez-nous en papier dans le magazine Focus Vif, qui est livré toutes les semaines avec le Vif L'Express. À bientôt, cordialement, bien à vous.